France Inter, 7h.
France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Et nous sommes le vendredi 7 juin. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, travailler plus pour être indemnisé. Le gouvernement veut durcir les conditions d'accès aux allocations chômage. Le détail après les autres titres, Agnès.
Revivre un été en or. La Coupe du Monde féminine de foot débute ce soir en France pour le plus grand plaisir des apprentis footballeurs. Avis de turbulence dans le ciel de la France Insoumise, la mise en garde de l'ONU sur les violences au Mali et puis un boys band coréen pour mettre le feu au Stade de France.
Les invités de France Inter ce matin, 7h50 à la veille de la journée mondiale des océans. L'apnéiste Guillaume Néry, multiple recordman du monde, sera au micro d'Ali Badou à 8h20 à l'occasion du mondial de foot féminin qui démarre ce soir. Table ronde dans le grand entretien de la matinale avec la ministre des Sports Roxana Maracineanu, l'historien Georges Vigarello et le journaliste de la maison de Radio France qui suivra la compétition, Cédric Guillou. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter.
Patronat et syndicats n'ayant pas réussi à se mettre d'accord, c'est donc le gouvernement qui a repris la main pour réformer l'assurance chômage et les décisions devraient être détaillées dans 10 jours selon les Échos qui dévoilent ce matin les grandes lignes de la réforme à venir. Une réforme en 3 points, un bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts, la dégressivité des allocations pour les hauts revenus et puis la mesure sans doute la plus sensible, un durcissement des conditions d'accès aux allocations chômage. Bonjour Fabien Cazot.
Bonjour.
Il faudra donc avoir travaillé 6 mois sur les 24 mois précédents et non plus 4 mois sur 28.
Oui, il faudra avoir travaillé donc 1 jour sur 4 au cours des 2 dernières années pour avoir droit aux allocations chômage contre seulement 1 jour sur 7 auparavant, un nouveau seuil qui place la France au même niveau que le Royaume-Uni. C'est le point qui fera forcément le plus polémique avec les syndicats puisque durcir les conditions d'accès aux allocations chômage, ça revient à exclure un certain nombre de demandeurs d'emploi qui ne pourront plus compter que sur leur activité réduite pour être rémunérés. Le gouvernement table sur 160 millions d'économies annuelles qui seront réinvesties, promis, dans le fonctionnement de Pôle emploi et dans une amélioration de l'accompagnement des chômeurs. Une promesse dans laquelle résonne décidément très fort le « en même temps » présidentiel. D'autant qu'il se confirme que les entreprises qui ont un recours abusif au contrat court seront pénalisées. Objectif là, améliorer le maintien dans l'emploi de ceux qui ont un travail. Emmanuel Macron avait réaffirmé son attachement à cette mesure en janvier dernier. Dernière confirmation enfin, la dégressivité des allocations chômage pour les mieux indemnisés, les cadres supérieurs par exemple, qui verront leurs aides baisser progressivement au-delà de 6 mois. Seul inconnu à ce stade, le montant d'allocation à partir duquel cette dernière mesure s'appliquera.
Merci Fabien Cazot, chef du service Éco de France Inter. Et puis le changement de stratégie commerciale chez BIC, le géant français des stylos, rasoirs et autres briquets, va se traduire par la suppression de 450 postes dans le monde, dont une centaine au siège social de Clichy dans les Hauts-de-Seine. Les usines de groupe ne seront pas touchées. C'est donc le grand soir pour l'équipe de France féminine de foot. Pour la première fois, le mondial se déroule en France. Match d'ouverture à 21h au Parc des Princes face à la Corée du Sud. 24 équipes engagées pour 1 mois de compétition et déjà 950 000 billets vendus. Preuve tangible de l'engouement inédit que suscite cette Coupe du Monde. L'envie aussi sans doute de revivre ces belles soirées d'été tous ensemble pour fêter les victoires des Bleus. Une envie qui touche aussi les plus jeunes et notamment les petits licenciés du club de Vignoux-sur-Barajon près de Vierzon. C'est dans ce club qu'a débuté la milieu de terrain Charlotte Bilbao et certains seront à Paris ce soir pour soutenir leur championne. Reportage de Jérôme Collin.
À l'entraînement cette semaine, les enfants du club n'ont que ça en tête. Ils vont voir un match de l'équipe de France à la Coupe du Monde.
Bah, c'est quand même génial d'y aller. En plus, c'est avec le club. En plus, il y a Charlotte. Donc, les filles, quoi, c'est bien qu'ils jouent aussi au foot. Bah oui, il faut accepter parce que les filles peuvent être fortes.
En Berry, Charlotte Bilbao est devenue une ambassadrice du football féminin. De Vignoux-sur-Barangeon à la Coupe du Monde, sa trajectoire est fulgurante. Et forcément, c'est un modèle à suivre pour tous les jeunes pleins de rêves.
Bah, c'est impressionnant d'avoir une fille qui est dans un si petit club que Vignoux, qui arrive en équipe de France. Ça nous motive plus.
Des enfants comme nous, on peut être célèbre après, plus tard, en haut niveau comme Charlotte.
Régulièrement, la Berrichonne revient sur la pelouse du CS Vignoux sur Barangeon. Charlotte Bilbao y a pris sa première licence dès l'âge de 6 ans sous les yeux de son père et de ses frères. Son premier éducateur, Jeff Morlixa, n'a rien oublié du talent de la jeune fille.
Elle était plus forte que les garçons. En fin d'entraînement, on faisait des petits matchs, puis tout le monde voulait jouer avec Charlotte. Ils ne voulaient pas la laisser toute seule. Je suis très, très heureux puis content pour elle. Et elle a bien réussi. Et en espérant maintenant qu'elle gagne la Coupe du Monde.
La route sera longue jusqu'à Lyon, lieu de la finale le 7 juillet prochain. Il faudra d'abord gagner ce soir face à la Corée du Sud, devant de nombreux supporters.
Et à 8h20, Nicolas, gros plan sur cette Coupe du Monde avec notamment la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Il est resté très discret depuis les résultats des élections européennes et le petit score de la France insoumise, 6,3%. Jean-Luc Mélenchon prend du recul pour analyser à froid les résultats, mais le mouvement tangue. Hier encore, une note interne a fuité. Elle fait le lien entre cette déroute électorale et le fonctionnement du parti. Mais pour l'heure, Marc Potvin, les militants parisiens que vous avez rencontrés soutiennent leur leader.
Lunettes sur le nez, regard acéré, Anne-Claire a bien réfléchi aux raisons de cette claque pour cette insoumise inutile d'accabler Jean-Luc Mélenchon.
Non, je crois pas que c'est de sa faute, pas plus que c'est la faute des militants ou des militantes. On a certainement pâti de la polarisation de la vie politique, un duel FN-LREM.
Simon aussi refuse de pointer du doigt l'homme aux 19,6% des voix à la dernière présidentielle. Jean-Luc Mélenchon qui reste une boussole pour ce militant. D'ailleurs, il attend avec impatience son analyse sur les européennes.
J'ai envie qu'il dise ce qu'on va devoir changer, sur quel point on va devoir évoluer.
Laurent, lui, a quelques idées. Pour cet insoumis, la question du chef est moins importante que celle de la ligne du mouvement.
On ne peut pas simplement être sur une logique de référendum anti-Macron. Il faut aussi donner effectivement une espérance commune.
Sauf qu'à ce stade, débattre de tout cela est compliqué.
Il n'y a pas de parlement de la France insoumise qui pourrait être le lieu où se débattent et s'échangent les différentes orientations possibles.
Ce manque de démocratie, il est aussi pointé dans la note qui a fuité hier. La quarantaine de cadres et de militants la France insoumise qui l'ont cosigné préconise une solution radicale, refonder le mouvement.
C'était l'un des détonateurs de la crise des Gilets jaunes. Les députés ont voté hier soir l'assouplissement des 80 km/h sur les routes départementales. L'initiative sera laissé aux communes et aux départements.
Il est 7h08, la suite du journal sur Inter. Agnès Soubiran.
Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer d'ici la fin du mois sur la prolongation du mandat de 15 000 casques bleus au Mali. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, met en garde contre le fort risque d'atrocité dans le pays. En mars dernier, le centre du Mali a été le théâtre de la plus grave tuerie jamais commise dans le pays avec la mort de 160 habitants d'un village Peul. Depuis, Valérie Crova, la violence y est quotidienne.
Le diagnostic que pose Antonio Guterres sur le Mali n'est pas exagéré. Le secrétaire général de l'ONU craint un risque d'escalade dans un pays livré à une multitude de groupes d'autodéfense. Ces milices se substituent à un état défaillant, incapable d'endiguer ce déchaînement de violence qui a atteint son paroxysme avec le massacre de Gossagou. Qu'elle soit l'œuvre de groupes djihadistes ou le fruit de règlements de comptes entre Peul et Dogon, ces violences se poursuivent. Yvan Guichawa est maître de conférence à la Bruxelles School of International Studies.
Il y a eu des exécutions sommaires, des raids commis sur des villageois, des enlèvements de personnes qui sont souvent d'ailleurs filmés. Un tel soupçonné d'être complice des djihadistes se fait embarquer par des chasseurs traditionnels. Ces épisodes-là se répètent quasi quotidiennement. Aujourd'hui, le ciblage est tel que il ne semble pas du tout scandaleux de parler de logique d'épuration ethnique.
Face à la dégradation de la situation sécuritaire, Antonio Guterres plaide pour une prolongation de la mission de la MINUSMA. Il lui faudra convaincre les États-Unis qui voudraient la réduire. Le secrétaire général des Nations Unies milite quant à lui pour son renforcement dans le centre du Mali, là où les risques d'exaction sont les plus importants.
Retour en France avec cette expérience unique menée à Marseille auprès de détenus en fin de peine. Un restaurant éphémère, les Beaux Mets, clin d'œil aux Baumettes, la maison d'arrêt de la cité phocéenne. Ce restaurant donc forme et emploie des détenus pour préparer leur sortie. Marie-Christine Loriol est passée à table.
Kassim a 22 ans, à la cheville, le jeune homme porte un bracelet électronique. C'est son dernier lien avec la prison, car depuis 6 mois, son quotidien se partage entre les cuisines d'une grande table marseillaise, comme stagiaire, et les fourneaux du restaurant, deux fois par semaine.
Tout va bien, j'aime bien travailler de mes mains, j'aime bien bouger et tout. C'est une chance parce que j'ai eu un parcours à l'école chaotique et là, j'ai pu me rattraper.
Une interface entre le milieu carcéral et l'emploi normal. C'est ce retour à la réalité qui est le plus difficile, comme a pu le constater Didier Castel, son formateur.
Une fois qu'ils sont partis, qu'ils sont levés, qu'ils sont là, il n'y a pas de souci. C'est juste réapprendre à vivre normalement, quoi. comme on vit dehors.
Comme Kassim, tous les détenus ont été sélectionnés sur leur motivation, car le but est bien d'empêcher la récidive. Au Beaumet, Aurore Kessial dirige la structure d'accompagnement vers la sortie.
C'est à eux de voir si cet emploi-là va leur suffire. C'est beaucoup de jeunes qui ont été condamnés, la majorité pour des trafics de stupéfiants, donc avec un revenu assez élevé. Hein. Et donc voilà, c'est travailler justement sur ce processus-là de sortie d'une vie facile.
En Angleterre, où est née l'initiative, le taux de récidive est passé de 50 à 7% depuis le début de l'expérience. Marseille, Marie-Christine Auriol, France Inter.
Avis de tempête sur le Grand Ouest. 8 départements de la Loire-Atlantique à l'Indre jusqu'en Charente-Maritime sont en alerte orange en raison de la tempête Miguel qui va souffler avec de la pluie et surtout des vents jusqu'à 120 km/h. Touchera-t-elle cette tempête les cours de Roland-Garros? Là est la question car il va faire chaud, très chaud sur le central à partir de 12h50 pour la 39e confrontation entre Roger Federer et Rafael Nadal. Une demi-finale de rêve. L'autre demi-finale opposera Novak Djokovic à Dominic Thiem.
Il est 7h11. Les Bleus donc pour mettre le feu au Parc des Princes et BTS pour enflammer le Stade de France.
Ce boys band de K-pop, un style de musique coréen, est un véritable phénomène planétaire. Il s'installe donc à Paris pour deux jours pour le plus grand bonheur des fans qui ont monté une association officielle Army France très mobilisée ces derniers jours. Luc Chemla.
C'est l'événement de l'année pour tous les fans. Mélanie a 24 ans, elle fait partie des 30 membres de l'association. L'étudiante ira deux jours de suite au même concert.
C'est un accomplissement. On s'est battu aussi nous en tant que fans pour que le groupe soit aussi populaire et qu'il soit aussi important. C'est une part de notre vie. On se sent compris avec eux en fait. C'est pour ça qu'on est autant investi en fait. C'est pas juste une relation fan-artiste, c'est vraiment plus que ça.
Une relation privilégiée et des activités variées pour Army France. Traduction de chansons, vidéos et articles de promotion du boys band. Beaucoup de travail selon Samantha, sa fondatrice.
Voilà, on se réunit absolument tous les jours pour discuter, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il y a à faire, quel projet est-ce qu'on peut mener. Et ça représente beaucoup d'heures, peut-être 5 heures par jour, si ce n'est plus.
Tout ça accompagné bien sûr des musiques du groupe. Un rythme entraînant, des textes engagés, de quoi séduire toutes les générations. Joanne est sud-coréenne, elle a 45 ans.
Elles étaient très choquées, c'est vrai que je n'arrive pas à croire que vous êtes tellement passionnée d'un groupe coréen. Et là, je me disais, ah, je peux faire peut-être quelque chose pour aussi le groupe que j'aime beaucoup et aussi pour les fans qui aiment bien nos garçons, donc je suis avec eux.
Les membres d'Army France seront devant le stade dès 10h ce matin, histoire de s'échauffer la voix.
BTS donc au Stade de France ce soir et demain soir, et les Bleus au Parc des Princes.
Merci Agnès Soubiran.